Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19e numéro de GKL, un magazine d'actualité proposé et préparé par les écoliers de CM1-CM2 de l'école française d'Ampadrianum. Autour de moi dans le studio de Wanatu, 6 chroniqueurs bien sûr, mais aussi de nombreux invités. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs.
Quel sujet d'actualité a retenu particulièrement ton attention cette semaine ?
Je vais vous parler du voyage du président français effectué ces deux derniers jours à Mayotte et à La Réunion, deux îles voisines de Madagascar.
Quel était le but de son voyage ?
Officiellement, il est venu présenter ses vœux à la population des départements et territoires d'outre-mer. Mais le président est venu aussi vérifier, un an après des graves émeutes contre la vie chère, si les mesures prises pour soutenir le développement économique des îles ont été respectées. On écoute l'intervention de Nicolas Sarkozy à Mayotte.
Je suis venu pour aider Mayotte à se développer. Et avec la départementalisation, nous avons tenu une promesse qui était faite depuis trop longtemps. Mais que les choses soient claires. Ce sont des droits et des devoirs. Et dans les devoirs, il y a le respect de la loi et le respect des fonctionnaires et des militaires qui ont la lourde mission d'appliquer la loi. Il n'y aura de ce point de vue aucune espèce de faiblesse. Et ne pensez surtout pas que parce que vous êtes loin de la métropole, je n'ai pas suivi ça de près.
Dans son discours, le président soutient les forces publiques.
Oui, car Mayotte est la seule île française de l'archipel des Comores. Sa richesse attire de nombreux clandestins qui viennent de l'île proche d'Anjouan. Dans le bidonville de Kaweni, sur les hauteurs de Mamoudzou, près de 10 000 clandestins vivent dans des abris insalubres, sans eau ni électricité. Nicolas Sarkozy a donc profité de son voyage pour annoncer de nouveaux moyens de lutte contre l'immigration illégale.
Bonsoir Inès, quel est le sujet de ton coup de colère ?
Bonsoir à tous. Chers auditeurs, je vais vous parler du nouveau cataclysme qui s'est produit en Haïti. Après les ouragans, les inondations, la famine, c'est un terrible séisme qui a frappé la capitale Port-au-Prince la semaine dernière.
C'est une véritable tragédie.
Oui, la capitale haïtienne ressemble à un cimetière à ciel ouvert. La plupart des bâtiments se sont effondrés, même le palais présidentiel. Il est encore trop tôt pour faire le bilan, mais la Croix-Rouge parle déjà de 50 000 morts, ce qui en ferait un des séismes les plus meurtriers de l'histoire.
Je suppose qu'il y a également beaucoup de blessés.
Bien sûr, et chaque jour, on réussit à sauver quelques vies bloquées sous les gravats. Mais beaucoup d'hôpitaux sont détruits, les médecins et les médicaments manquent. Heureusement, la population montre beaucoup de solidarité. Comme on peut le remarquer dans cet extrait d'un reportage diffusé sur RFI.
Courage Marie, courage.
Les amis, les là-haut.
C'est un cri déchirant, hein, parmi tant d'autres, dans le jardin de l'hôpital central. Marie a 11 ans, allongée à l'ombre d'un manguier, un bloc de béton est tombé sur sa jambe au niveau du tibia. La plaie est béante, longue de 30 cm, et un jeune Canadien, Bruno, venu spontanément apporter son aide, lui refait son pansement.
La communauté internationale est-elle également solidaire ?
Oui, des avions se succèdent en permanence sur l'aéroport de Port-au-Prince, heureusement épargnés. Sauveteurs, médecins, médicaments, eau, nourriture et dons financiers arrivent de tous les pays du monde. Le président Obama lui-même a tenu à apporter son soutien.
Au peuple haïtien, nous disons clairement et avec conviction, nous ne vous abandonnerons pas, nous ne vous oublierons pas. Dans ces moments de grand dénuement, l'Amérique est à vos côtés, le monde est à vos côtés. Nous savons que vous êtes un peuple fort et endurant. Vous avez subi une longue histoire d'esclavage et de lutte, de catastrophes naturelles et de reconstruction. Et au travers de tout cela, votre âme n'a pas été brisée et vous n'avez pas perdu la foi. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que les secours arrivent, que beaucoup, beaucoup d'aide va vous parvenir.
Inès, pour expliquer à nos auditeurs les raisons de ce séisme, tu reçois maintenant une invitée.
Effectivement, j'ai à côté de moi Christelle Lomedet, professeure de sciences de la vie et de la terre. Bonsoir madame, pourquoi y a-t-il eu un séisme en Haïti ?
Bonsoir. Alors il faut savoir qu'à la surface de la terre, on trouve de grandes plaques rigides comme des pièces de puzzle. Et Haïti se trouve sur une de ces plaques, la plaque Caraïbe, qui se trouve coincée entre deux plaques. Au nord, la plaque nord-américaine et au sud, la plaque sud-américaine. Haïti est également bordé par deux grandes failles. Les plaques se déplacent à des vitesses et des directions différentes et de fortes tensions vont s'accumuler dans les roches. C'est ce qui s'est passé au sud d'Haïti le long de la faille d'Enriquillo. Les tensions ont lâché, il y a eu une rupture brutale des roches au niveau de la faille. Et cette rupture a libéré une énergie qui a provoqué des ondes sismiques. Quand ces ondes arrivent en surface, elles font trembler le sol, c'est le séisme.
Pour quelle raison a-t-il été si meurtrier ?
On peut expliquer l'importance des dégâts par deux raisons. La première, c'est que le foyer du séisme, c'est-à-dire là où la rupture des roches s'est produite, se trouve à une faible profondeur, moins de 15 km. Et les ondes n'ont pas pu être ralenties, absorbées avant d'arriver en surface. Et la seconde raison, c'est que le foyer se trouve en dessous d'une zone fortement urbanisée, habitée, mais que les constructions ne sont pas parasismiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été construites pour résister au séisme.
Peut-on prévoir un séisme ?
La prévision n'est pas possible. On peut surveiller les zones à risque, étudier les séismes anciens qui se sont passés dans la région, surveiller les failles, mais on ne pourra jamais donner une date précise d'un éventuel séisme. On peut informer la population, aménager le territoire en construisant des habitations parasismiques, mais les séismes restent les cataclysmes les plus dangereux par rapport aux cyclones et aux éruptions volcaniques.
Merci pour toutes ces explications, bonne soirée et au revoir.
Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Stéphane.
La rubrique semble porter essentiellement sur le football.
Oui, et je vais commencer avec la CAN.
Le premier tour s'achève bientôt.
Et plusieurs équipes se sont déjà qualifiées comme la Côte d'Ivoire. On écoute leur entraîneur, Vahid Ali Lodi.
C'est vraiment une référence contre une très belle équipe de Ghana. À 10, marqué 2 buts. Et je peux vous dire, je suis beaucoup fier de mes joueurs. C'est un match pas facile pour nous parce qu'on a été dans l'obligation de gagner. Ça, je suis très fier de cette victoire, très fier de mes joueurs qui ont un match héroïque.
La Côte d'Ivoire rencontrera donc l'Algérie et l'Angola, pays organisateur, jouera contre le Ghana. Ce soir, le Nigeria essayera de se qualifier et demain le Cameroun.
On continue avec le football, mais ce coup-ci en France. Benjamin, tu as un invité au téléphone, je crois.
Ils sont effectivement en ligne avec Paulin Pouage, qui est actuellement le meilleur buteur de la sélection malgache. Il joue cette année au club de Croix de Savoie à Evia. Allô, bonsoir, vous m'entendez ?
Oui, c'est Paulin, je t'attends bien.
Bravo, car vous êtes en tête du championnat.
Ouais, ça marche bien en ce moment, ouais. La première partie de saison, ça marche bien.
Pensez-vous monter en Ligue 2 la saison prochaine ?
En ce moment, on est bien, mais cette saison, ça sera longue. Mais si on veut monter en Ligue 2, il faut continuer à gagner avant la fin de saison.
Vous êtes qualifié pour le 16e de finale de la Coupe de France et vous tombez contre le Paris Saint-Germain. Avez-vous une chance de vous qualifier ?
Mais je pense, on sait jamais, ça va être dur, mais peut-être on peut passer.
Merci beaucoup, Paulin, et bonne chance face au PSG.
Ok, merci. Ok, à bientôt, au revoir.
Quant aux autres sports,
Carlos Sainz en auto et Cyril Després en moto sont les gagnants du Dakar. L'épreuve se déroulera peut-être en Afrique de l'Est en 2011. La semaine prochaine, nous vous parlerons de tennis avec l'Open d'Australie qui vient de débuter.
Bonsoir Gabriel, quel est le sujet de ta rubrique ?
Bonsoir à tous. Je vais vous parler d'une association malienne qui recycle les sachets plastiques d'une manière très insolite. Elle se trouve à Mopti, sur le fleuve Niger, aux portes du désert. Ici, comme dans beaucoup d'autres pays du Sud, on retrouve ces sacs plastiques partout. Sur les trottoirs, autour des marchés, même dans les arbres où ils portent le nom poétique de fleurs du Sahel.
Ces sachets sont-ils dangereux ?
Bien sûr ! Le plastique est très mauvais pour l'environnement. Il peut mettre jusqu'à 4 siècles pour se décomposer. Et si des animaux en avalent, ils peuvent s'étouffer.
Quelle recette miracle propose donc cette association malienne pour se débarrasser des sacs plastiques ?
Elle a mis en place un système ingénieux qui permet de recycler les sacs en pavé. Il suffit pour cela de laisser mijoter 20 kg de plastique avec 70 kg de sable pour obtenir une vingtaine de pavés.
Quels sont les avantages de ce recyclage ?
Grâce aux pavés, les rues sont propres, même quand il pleut et les quartiers sont débarrassés des sacs. De plus, le dallage des rues coûte moins cher et il est plus résistant que le bitumage. Enfin, cela permet de créer des emplois dans un des pays les plus pauvres du monde.
Bonsoir Louis, tu veux nous parler d'un film je crois.
Effectivement, je vais vous parler d'Invictus, le nouveau film de Clint Eastwood avec Morgan Freeman.
Quel en est le sujet ?
C'est une histoire vraie qui se passe en Afrique du Sud il y a 15 ans. Le président Nelson Mandela essaye alors de réconcilier son peuple autour de la Coupe du Monde de rugby qui a lieu dans son pays.
Quel était le problème au sein du peuple sud-africain ?
Pendant plus de 40 ans, de 1948 à 1991, l'Afrique du Sud vivait sous le régime de l'apartheid, une politique raciste qui donnait beaucoup plus de droits aux blancs qu'aux noirs. Nelson Mandela a combattu cette discrimination raciale au sein de son parti, l'ANC, ce qui lui a valu 30 ans de prison. À sa sortie, il a facilement été élu président.
Finalement, son équipe a-t-elle gagné la Coupe du Monde ?
Je ne vous le dirai pas, bien sûr. Mais sachez que la France avait alors joué la demi-finale contre l'Afrique du Sud. En attendant de pouvoir regarder ce film, voici un extrait de la bande-annonce.
Aujourd'hui, le président Mandela prend ses fonctions à Pretoria. Concilier les aspirations des Noirs et les peurs des Blancs.
Frères, sœurs, l'heure est venue de bâtir notre nation.
Combien de temps avant la Coupe du Monde ?
N'ayez pas trop d'espoir. Nous sommes franchement mauvais.
On m'a invité à prendre le thé.
Avec qui ?
Le président.
Qu'est-ce qu'il voulait ?
Je crois qu'il veut qu'on gagne la Coupe du Monde.
Les temps changent. Nous aussi, nous devons changer.
Nous sommes devenus plus qu'une simple équipe de rugby.
Vous entendez ? Écoutez votre pays. Ça y est, c'est notre destin.
Je me demandais comment on peut passer 30 ans dans une cellule minuscule et en sortir prêt à pardonner à ceux qui vous y avaient enfermé.
Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme.
Vendredi soir, le comédien mime Laurent Decolle se produira au centre culturel Albert Camus dans un spectacle déjà complet. Avant d'embarquer demain matin pour Madagascar, il a accepté de s'entretenir au téléphone avec Zoé.
Bonsoir Laurent Decolle.
Bonsoir Zoé.
Qui est le mime Marceau ?
Mime Marceau était parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, en septembre 2007. Hein. C'était, on peut dire, hein, sans se tromper, le plus grand mime du monde, c'est-à-dire le plus connu, peut-être celui qui est le plus d'importance dans cette technique à travers. travers le monde, quoi. C'était en même temps un grand pédagogue. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Donc, j'ai eu un professeur et puis j'ai travaillé à côté de lui puisque j'étais son collaborateur quelque temps. Et donc, c'est quelqu'un qui a codifié un langage pour que ça devienne un langage artistique à part entière.
Vous présentez un hommage à Jacques Tati, jeudi soir au CCAC. Pourquoi vous a-t-on confié cet honneur ?
Parce que Tati, c'était d'abord et avant tout un grand mime. Et ça, on l'a oublié. C'est-à-dire qu'avant de faire du cinéma, avant de réaliser ses films comme Les Vacances de Monsieur Hulot, Jour de Fête, Playtime, Trafic, enfin, il était d'abord un artiste, comme on disait surtout à de Music Hall, et il était mime. Il était extrêmement doué d'ailleurs.
Votre spectacle comporte 8 numéros de mime. L'un d'entre eux s'appelle Le Cirque. Que va-t-il se passer ?
Alors, Le Cirque, j'ai une réserve de personnages. Alors, il y aura un haltérophile, c'est-à-dire le personnage de foire là, qui soulève des haltères, mais en même temps, il y a un lien commun à tous les personnages qui sont dans le spectacle, c'est que c'est des personnages un peu imbus d'eux-mêmes, extrêmement prétentieux, qui ne supportent pas qu'on se moque de lui, donc évidemment, ça provoque des rires. Quelqu'un qui est imbu de lui-même et qui est prétentieux, donc c'est le cas de l'haltérophile. Il est persuadé qu'il est l'homme le plus fort du monde, mais évidemment, ça ne va pas se passer comme il le croit. Il y a un cracheur de feu aussi, il y a un avaleur de sabre, il y a un magicien.
Qu'est-ce qui vous a orienté vers le mime ?
J'ai été fasciné assez vite, quand j'étais très jeune, par Marcel Marceau, encore lui. Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer assez vite. Et puis il y a quelque chose qui m'attirait, qui m'a toujours attiré. Depuis l'âge de 15 ou 16 ans, j'ai toujours fait des petits numéros de mime. J'ai commencé par faire la poupée mécanique, le mime automate. Après, j'ai suivi des cours techniques un peu plus précises.
Quelles sont les particularités du mime ?
Alors, particularité du mime, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est de dire c'est un spectacle sans parole. C'est juste s'exprimer sans utiliser le langage articulé, le langage parlé. Voilà, il y a l'attitude et les gestes. Voilà, donc ce sont ces deux aspects-là qui sont très importants, l'attitude et les gestes. Alors, c'est important, l'attitude en premier, parce que l'attitude est immédiatement compréhensible absolument par toutes les cultures de la Terre. Par contre, les gestes sont des détails de l'attitude et quelquefois, il y a des gestes qui ne sont pas forcément compréhensibles parce qu'ils sont culturels. Il y a des gestes très simples, comme par exemple le fait de hocher la tête pour dire oui ou la hocher dans l'autre sens pour dire non. Et puis, il y a des pays où c'est le contraire, comme en Inde, par exemple. Donc, c'est amusant d'être confronté à une culture où on fait des gestes qui signifient l'inverse de ce que notre culture dit.
Pourquoi les couleurs de votre costume et de votre maquillage sont en noir et blanc ?
Ah oui, c'est une très bonne question. C'est un noir et blanc parce que bon, il y a un petit peu de rouge, la bouche est rouge quand même, mais c'est vrai que c'est noir et blanc parce que une raison plutôt esthétique et puis aussi en référence au cinéma muet, Chaplin, Keaton.
Vous arrive-t-il d'avoir des partenaires sur scène ?
Oui, bien sûr, oui. Alors, il y a deux sortes de partenaires. J'ai monté le spectacle avec d'autres comédiens. Mais il m'arrive aussi d'avoir des partenaires au cours du spectacle, c'est-à-dire j'improvise avec le public. Donc ça peut très bien se produire que vendredi soir, il y a des gens qui viennent sur scène, voilà, pour ne pas en révéler.
Au revoir et bon voyage.
Ok, ben merci beaucoup et puis à vendredi. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.
C'est maintenant l'heure de vous faire gagner le magnifique t-shirt de l'émission offert par Move. Pour cela, il faudra être le plus rapide à la question qui va suivre. Nous vous rappelons que vous pouvez jouer par SMS au 032 32 007 65 ou bien au 033 56 007 65 ou encore au 034 34 007 65 en n'oubliant pas d'indiquer JK, un tiret et votre prénom avant la bonne réponse. À vos touches téléphoniques, voici la question. En quoi une association malienne écologique a-t-elle réussi à recycler des sacs plastiques ? Salutations à nos auditeurs internautes qui sont de plus en plus nombreux sur le blog jkl.viabloga.com. En effet, nous avons dépassé cette semaine le 500e visiteur. La semaine prochaine, Jade recevra Monsieur Busson, forestier spécialiste de la flore malgache, qui a gentiment laissé sa place ce soir à Laurent Decolle, actualité culturelle oblige. À la semaine prochaine, même fréquence, même heure, et bonne soirée sur Wanatoo.